Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, qui poursuit sa réflexion sur la place du renseignement en démocratie, dans ce quatrième épisode qui sera consacré au renseignement intérieur avec Michel Delépine, commissaire divisionnaire de police en retraite. Nous nous sommes intéressés jusqu'ici au renseignement extérieur en négligeant peut-être une autre dimension tout aussi importante, le renseignement intérieur. Peut-être parce qu'il n'a pas très bonne réputation, on a parlé de police politique, on songe à Richelieu immédiatement, au secret du roi, aux quatre mousquetaires aussi. Il n'empêche que le renseignement intérieur remplit un rôle essentiel en démocratie, bien au-delà des questions de terrorisme. Un rôle méconnu, un rôle qui a beaucoup évolué ces dernières années. C'est pourquoi je suis très heureux de recevoir ce soir Michel Delépine, commissaire divisionnaire de police, aujourd'hui en retraite, et qui a fait toute sa carrière dans le renseignement. Et pendant sa carrière, elle a été en charge des mouvements ultra de droite ou de gauche, du hooliganisme, des skinheads, et ce qui l'a amené tout naturellement à travailler sur la problématique de l'islam radical, c'est dire l'actualité de ces sujets. Michel Delépine, bonsoir.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, une carrière dans le renseignement, c'est, j'imagine que pour beaucoup de nos éditeurs, ça sera mystérieux. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le rôle du renseignement et la mutation, d'ailleurs on y reviendra, que vous avez connue vous-même?
Écoutez, dans une démocratie, le renseignement est absolument indispensable, dans la mesure où ce qui caractérise justement la démocratie, c'est l'existence d'énormément de libertés individuelles. Et plus un État est démocratique, plus il est vulnérable, puisque des individus mettent à profit justement ces libertés individuelles pour atteindre éventuellement l'État.
C'est ça, parce que plus l'État est démocratique, plus les gens sont libres. Et quand ils sont libres de faire des bêtises aussi.
Voilà, y compris de lutter contre les libertés individuelles en s'en servant.
C'est ça.
Absolument.
Bien sûr, mais ça c'est le problème de la démocratie, le problème
absolument
de fond de la démocratie.
Tout à fait. Alors, il faut ajouter aussi que la menace évolue. La menace traditionnelle de la Troisième République est bien loin de celle que nous rencontrons aujourd'hui.
Parce que la Troisième République, son problème, c'était l'Église, c'était les monarchistes, c'était en fait comment installer la République, essentiellement.
Exactement. Maintenant, on n'en est plus là. Le renseignement se heurte également à l'internationalisation des crises, à une très grande mobilité des populations, donc éventuellement des délinquants ou des terroristes, se heurte également à une information massive et de plus en plus rapide qui vient des réseaux sociaux, à une montée des frustrations également, très importante.
Oui, et puis, qu'on voit bien aujourd'hui dans la France de 2019.
Tout à fait. Et un effondrement des institutions qui étaient jusque-là considérées comme représentatives ou du moins médiatrices, pardon, c'est-à-dire les syndicats, c'est-à-dire le politique. Toutes ces institutions qui étaient censées représenter l'opinion publique n'existent plus.
Ça voudrait dire que le renseignement a un rôle de représentation de l'opinion publique?
Oui. Le renseignement a une double vocation. Le renseignement intérieur a une double vocation. La première vocation, c'est tout simplement d'anticiper et de repérer, d'anticiper les menaces et de repérer les individus qui sont susceptibles de mettre à mal nos institutions. Ça, c'est la première chose. De mettre à mal l'ordre public, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Et puis, deuxième rôle très important, le renseignement doit être considéré comme une caisse de résonance de ce que ressent l'opinion publique en direction des dirigeants. C'est-à-dire que c'est une prise de température de l'opinion publique et une remontée des préoccupations des gens vers les dirigeants.
Ça veut dire que le renseignement doit palper, en quelque sorte, c'est comme ça qu'on appelle ça dans le privé, l'état de l'opinion, ces frustrations, vous en parlez, c'est très important, parce que peut-être que l'État ne les a pas assez entendues, ces frustrations précisément, et peut-être qu'il ne les a pas assez entendues parce qu'il n'avait pas, ou plus, ces relais pour les entendre, relais qui étaient les corps intermédiaires et qui sont en difficulté aujourd'hui. Comment vous vous y prenez pour écouter l'opinion?
Écoutez, le plus simple, c'est le contact direct avec l'ensemble des acteurs de l'opinion publique. Alors, les fonctionnaires des renseignements généraux qui depuis 2018.
C'est ça, vous ne savez pas s'il faut parler à l'imparfait ou parler au présent, Michel Delépine.
Qui, depuis 2008, ont été transformés d'abord en sous-direction de l'information générale, puis sous-direction du renseignement territorial.
Donc transformés ou absorbés?
Alors, à la fois absorbés par l'ancienne DST, pour rejoindre ce qu'on appelle la DGSI, 80% des fonctionnaires des anciens RG sont partis à la DGSI, parmi lesquels d'ailleurs les analystes les plus expérimentés. Et puis 20% des fonctionnaires sont restés au sein d'une sous-direction de la Direction centrale de la sécurité publique, qui a successivement pris pour nom sous-direction de l'information générale, puis sous-direction du renseignement territorial aujourd'hui.
Est-ce que ça ne veut pas dire une disparition des territoires dans la tête de nos décideurs? Parce que la DST, c'est une fonction centrale.
Oui.
C'est une fonction parisienne, pour faire court. Alors que les RG d'autrefois, c'était un maillage territorial. Il fallait connaître tous les territoires dans ses moindres replis. Et ce sont les territoires qui ont été dépouillés pour nourrir le central, non?
Absolument. Donc, il a fallu recréer ce maillage territorial. Pour être tout à fait franche, je ne pense pas que ce soit définitivement acquis. Hein. Il faut recréer les nombreux contacts que les fonctionnaires des renseignements généraux avaient avec l'ensemble de la population, toutes les strates de la population. C'est-à-dire qu'un fonctionnaire aujourd'hui du SDRT doit à la fois prendre contact avec les élus, les sénateurs, les députés, mais également les chefs d'entreprise, mais également les commerçants et puis aussi les gens qui ne représentent qu'eux-mêmes. L'opinion publique banale,
mais, si je suis Michel, vous parlez comme si les gens vous parlaient spontanément, qu'il n'y avait pas de problème.
Il n'y a aucun problème. Dans la mesure où les fonctionnaires du SDRT agissent à visage découvert, les gens sont très, comment dirais-je, très preneurs d'une écoute par l'État. C'est-à-dire que les gens considèrent que les fonctionnaires du SDRT sont là pour écouter leurs préoccupations et pour retransmettre leurs préoccupations aux gouvernants. Et donc, ils sont très heureux d'avoir affaire à nous, très heureux de nous expliquer leurs contraintes, leurs problèmes du moment, parce qu'ils trouvent en nous une filière de remontée d'informations qui est neutre et qui est de l'ordre du vécu, du senti. Et ça, c'est très important pour eux.
Et ça, c'est la République.
Oui.
Alors, mais ce qui est intéressant, effectivement, c'est qu'il y a une dimension assez surprenante, d'ailleurs, je pense, que vous incarnez quelque chose. Le renseignement territorial, les ex-RG, incarnent quelque chose auprès des citoyens. Ils représentent l'État.
Pour eux, nous représentons l'État. Et nous sommes susceptibles de faire remonter leurs préoccupations sans déformation. C'est-à-dire qu'ils nous font confiance.
Alors que le délégué politique, le représentant politique, celui qui est affilié à un parti, donc à une certaine sensibilité politique, va peut-être avoir tendance à orienter les faits, à orienter les demandes. Là, il y a l'impression d'une sorte d'impartialité républicaine du renseignement.
Dû au fait que nous sommes ressentis par la population et par nos partenaires comme des professionnels du renseignement. Tout simplement, avec une formation, avec une éthique, avec une déontologie.
Alors c'est ça qui est d'ailleurs surprenant, c'est que vous, par définition, un agent de renseignement, un policier qui fait du renseignement, agit discrètement, dans l'indiscrétion. Il agit il faut pas que ça se sache. Et d'ailleurs, le résultat de ses conclusions vont pas être connus par personne d'autre que l'État. Ça aussi, c'est une garantie.
Absolument.
Alors, on viendra ensuite à votre réception par l'État. Mais disons que, est-ce que vous avez pas noté une certaine évolution dans l'opinion à l'égard du renseignement territorial? Est-ce que, d'une certaine méfiance, on n'est pas passé à une attente de protection via le renseignement?
Absolument. Il faut dire aussi que la disparition des RG a étonné beaucoup de monde. Nous pensions tous que les renseignements généraux étaient suspectés d'être une police politique, etc. En fait, on s'aperçoit que lorsqu'ils ont disparu, nos partenaires habituels, les gens de la base, tous les représentants des catégories socioprofessionnelles ont été presque déçus de ne plus avoir d'interlocuteurs. Et aujourd'hui, ils s'expriment auprès de nous tout simplement parce qu'ils ont l'impression que les partis politiques ne les entendent pas, que les syndicats ne les représentent pas. Et dans le fonctionnaire des renseignements généraux, ils voient une façon plus directe et plus rapide de voir remonter leur préoccupation auprès de l'État.
Et de faire passer un message.
De faire passer un message.
Et de faire passer un message en quelque sorte. Alors, il faut recueillir l'information, donc ça avec ces gens qui sont finalement assez demandeurs de partager leurs préoccupations. Après, il faut les analyser, Michel
Absolument.
De Lépine.
Alors, on se heurte actuellement à un petit souci, c'est que l'accélération de l'information, par les réseaux sociaux notamment, par la présence de chaînes télévisées d'information continue, fait que souvent le pouvoir politique réagit à l'information et ne prend plus le temps forcément de réfléchir aux actions qu'il va mener d'une façon pérenne et dans le temps. Ce qui fait que souvent les services de renseignement sont maintenant confrontés à l'immédiateté. Et c'est vrai, on a moins de temps pour analyser. Et l'analyse, il faut bien le dire, c'est la condition sine qua non de l'anticipation.
Mais oui, mais c'est ça l'image de notre société, ce que vous nous dites là, madame la commissaire divisionnaire, c'est à l'image de notre société, c'est-à-dire qu'il y a une multiplication des sources d'information, l'information continue, les réseaux sociaux, on va y venir dans un instant, mais dans le fond, ce sont des informations peu vérifiées, pas analysées et qui implique une réaction immédiate et souvent dans un sens d'ailleurs très très déterminé. Il faut réagir, faut agir parce que on est sous la pression de l'actualité. Alors que si je vous entends bien, le travail du renseignement territorial, c'est un travail de longue haleine, mais ça veut dire qu'il faut bien connaître son territoire, il faut bien l'analyser aussi. Comment est-ce que vous vous y prenez pour analyser des informations qui par définition sont éparses voire contradictoires?
Il y a deux conditions. D'abord, un maillage territorial maintenu au plus près de la population, c'est-à-dire que chaque fonctionnaire du service territorial doit avoir en charge au moins une commune. Donc, chaque commune doit être couverte par un fonctionnaire du service territorial. Donc, la multitude de contacts et de contacts de proximité fait que, bout à bout, on aboutit à pouvoir faire une analyse d'une situation. Première chose, c'est le nombre de contacts et la proximité des contacts avec l'opinion publique. Et puis deuxièmement, c'est aussi la centralisation du renseignement. Un renseignement qui ne serait pas centralisé n'est pas un renseignement complet.
Exploitable.
Mmh. C'est la généralisation de plusieurs renseignements qui permettent ensuite de tirer des conclusions et de faire des analyses qui vont constituer une aide à la décision de nos gouvernants.
Mais ça, c'est un métier de sociologue, ça. C'est pas un métier de policier.
Sauf que les sociologues ne travaillent pas pour l'État.
Oui, oui. Puis ils ont des catégories, et puis bon, voilà. Et bien sûr.
Et que le policier... Tout à l'heure, vous parliez d'agir en milieu ouvert, ce qu'on appelle, hein, c'est-à-dire agir à visage découvert. Eh bien, il faut savoir que ça, ce n'est qu'une partie des méthodes utilisées par les fonctionnaires du renseignement.
Ben, j'imagine bien que les Black Blocs sont pas tellement contents de parler au renseignement territorial.
Ah, je crois qu'ils n'en ont pas envie du tout. Non. Donc, il faut savoir que 80% à peu près de notre activité, l'activité du renseignement de proximité, consiste à se présenter effectivement à visage découvert, que 20% à 30% de notre activité consiste à mettre en œuvre des réels moyens d'investigation, qui sont d'ailleurs parfaitement encadrés par la loi, je tiens à préciser, que sont les interceptions de sécurité,
etc. Oui, on va revenir sur l'encadrement, parce que ça aussi c'est très intéressant, ça pose une question qui est très intéressante. Voilà. Mais comment vous faites pour pénétrer un milieu fermé? Un milieu fermé, c'est une cellule terroriste, c'est un mouvement radical dont vous étiez spécialiste, Michel de Lépine. C'est un mouvement radical, c'est un mouvement qui vit en vase clos, c'est un peu le problème d'ailleurs, c'est source du premier déséquilibre. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre ce qui s'y passe?
Bien, tout simplement, ça suppose une incursion dans la sphère privée de ces gens. Donc, soit par des interceptions de sécurité, ce qu'on appelle les écoutes téléphoniques administratives, tout simplement, soit par des surveillances, soit par des rapprochements, hein, des rapprochements d'individu à individu. Et puis aussi, lorsqu'une personne est interpellée, eh bien, nous bénéficions des procès-verbaux des policiers et nous épluchons tous les procès-verbaux pour mettre au jour le réseau relationnel de cette personne, par exemple. Donc, il y a énormément de moyens, je le répète encore, parfaitement encadré par la loi, qui sont des moyens d'investigation, ce qu'on appelle le milieu fermé.
Le milieu fermé. Alors, cette opposition milieu ouvert, milieu fermé, elle est structurante, hein, pour le renseignement territorial. Elle est très importante. Mais alors, ce qui est intéressant du point de vue du contrôle démocratique, c'est que comme il s'agit de méthodes qui sont des méthodes intrusives, d'interception, de rapprochement, des méthodes qui sont proprement des méthodes de renseignement, il peut pas y avoir le même contrôle démocratique qu'il y a pour la loi général. Il y a un type de contrôle, mais qui est très original, qui passe par des autorités administratives indépendantes, qui passe par un encadrement, Michel de Lépine, administratif.
Absolument. Alors, on a des contrôles externes, notamment un contrôle parlementaire très présent maintenant.
Effectif.
Avec des délégations parlementaires, avec des commissions d'enquête parlementaires, on en a vu quelques exemples récemment. Et puis, la mise en place aussi, pour le contrôle des services, d'une inspection générale des services de renseignement, qui est très efficace également, qui peut demander des rapports, qui peut demander des explications.
Et tatillonne.
Assez. Face à cela, on a également tout un tas de codes internes. Par exemple, le code de déontologie de la police nationale. Il ne faut pas oublier que la majorité des fonctionnaires attachés au renseignement et la totalité de ceux d'ailleurs du renseignement territorial sont des policiers. Eh bien, le code de déontologie de la police nationale, par exemple, interdit à tout policier d'utiliser le renseignement à d'autres fins que des fins
publiques.
Voilà, à des fins professionnelles. Et puis, on a également des contrôles, vous l'avez souligné tout à l'heure, Antoine Garapon, des contrôles faits et très craints par les fonctionnaires, faits de la part de commissions indépendantes, d'institutions indépendantes, telles que la CNIL, par exemple, ou la Commission nationale des techniques de travail du renseignement, l'ancienne CNIS, qui contrôle notamment la validité et la motivation réelle des interceptions de sécurité.
Surtout pour le milieu fermé.
Tout à fait. Donc le contrôle est très fort. Nous avons également des contrôles internes, disciplinaires, faits par l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale, très crainte également par les fonctionnaires, ou par l'IGS, l'Inspection Générale des Services, au niveau de la Préfecture de Police de Paris. Et puis, il ne faut pas oublier qu'un fonctionnaire de police, quel qu'il soit, est passible, en cas de faute personnelle, est passible des tribunaux pénaux. Oui. Comme tout citoyen.
C'est ça. Et alors, il y a aussi, c'est intéressant parce que il y a aussi une vie interne, il y a des syndicats, il y a une action syndicale.
Absolument.
Du renseignement.
Et pour moi, ça, c'est une des garanties.
Tout à fait, c'est ça. C'est une des garanties démocratiques. C'est-à-dire qu'il y a une. Je crois même que vous étiez représentante syndicale.
Oui, tout à fait.
Michel de Lépine. Donc, ça veut dire que, dans le fond, il y a une vie administrative, il y a un contrôle, spécifique pour de façon à ce que toute l'action soit encadrée. Mais il n'empêche qu'on a beaucoup parlé ces derniers temps, et ça vous concerne, quoi, vous connaissez bien ce problème, c'est les fameuses MICAS, c'est-à-dire les mesures individuelles administratives de contrôle qui sont entièrement administratives, qui ne passent plus par le juge judiciaire. Mais là, ça veut dire qu'il faut donner ses raisons au juge administratif. Les deux logiques se rencontrent et sont contradictoires, Michel de Lépine.
Absolument. Alors, je reviens sur ce que vous disiez, Antoine Garapon. Les MICAS, maintenant, depuis la loi du 30 octobre 2017, qui a permis l'intégration dans la loi ordinaire des mesures administratives restrictives de liberté qui étaient prises dans le cadre de l'état d'urgence, maintenant, ces MICAS sont prises sous le contrôle d'un juge. Bon, le problème...
Il faut donner des raisons.
Il faut donner des raisons. Et c'est là où la confrontation entre un juge, choix judiciaire, soit une...
C'est plutôt le juge administratif, en l'occurrence.
Voilà, le juge administratif... Une fois qu'une mesure administrative a été prise à l'encontre d'une personne, susceptible, il faut le souligner, de troubler l'ordre public, on ne met pas n'importe quelle personne sous MICAS, eh bien, le problème, c'est que deux mondes se rencontrent. Vous avez la police de renseignement qui a accumulé des indices contre une personne avant même qu'il n'ait commis une infraction.
C'est la logique même de la lutte antiterroriste.
Et puis vous avez une justice qui est des juges qui vont demander à ce qu'on leur prouve que la menace est bien réelle.
Mais c'est leur métier.
Ah, c'est leur métier. Donc à ce moment-là, il y a véritablement une confrontation de deux mondes qui est difficile à obtenir, mais on y arrive quand même.
Alors comment aussi on y arrive ?
Eh ben, on y arrive en essayant de motiver, d'objectiver nos demandes, sans pour autant dévoiler tout de nos demandes et sans dévoiler les méthodes qui nous ont permis d'y parvenir.
Oui, ce qui pose un problème. Alors, je ne parle pas des méthodes, parce que les méthodes, la justice a longtemps fonctionné comme ça. C'est-à-dire que ce qui était important, c'est d'avoir le fruit des investigations. Les méthodes, c'est bien sûr important pour les avocats de savoir si elles sont régulières. À partir du moment où elles sont régulières, parce que contrôlées par des autorités administratives indépendantes. Bon, mais ça pose quand même un problème. Il faudra bien qu'on en sorte un jour. C'est-à-dire que si on est dans un État démocratique, il faut que quand une personne voit ses libertés restreintes, il faut qu'il sache pourquoi. Et savoir pourquoi, c'est très difficile dans ce qui vous concerne, parce que non seulement ça vous oblige en quelque sorte à dévoiler vos méthodes et on a affaire à de véritables ennemis en ce qui concerne la radicalisation islamiste violente, c'est-à-dire des gens qui analysent régulièrement. Et donc, comment est-ce qu'on peut échapper ? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion pour sortir de ce dilemme, Michel de Lépine ?
Mais écoutez, les fonctionnaires qui tentent de motiver donc les demandes de mesures restrictives de liberté de manière préventive. Essaient de pas trop dévoiler.
C'est ça, bien sûr, leur méthode.
Leur méthode, ni dévoiler tout ce qu'ils savent, mais d'y mettre assez d'éléments pour persuader le juge. Mais une des pistes que je revendique, ce serait par exemple de permettre au juge qui doit statuer en appel sur les décisions prises de bénéficier de l'avis d'un collège d'experts.
C'est ça.
Ça se fait par exemple aux États-Unis. Oui. Pourquoi ne pas
Ça se fait de plus en plus. Ça se fait de plus en plus d'ailleurs, c'est-à-dire que de mettre un tiers de confiance assermenté, un collège d'ailleurs, collège d'experts qui vont voir et qui vont alerter éventuellement l'attention du juge s'il y a une difficulté et qui permettent comme ça de bénéficier d'une garantie supplémentaire, mais qui n'est pas la transparence procédurale totale.
Tout à fait.
France Culture, matière à penser, Antoine Garapon.
Et qui continue notre conversation avec Michel de Lépine, qui est commissaire divisionnaire spécialisé dans le renseignement territorial et qui a choisi de nous faire écouter la mélodie hongroise de Schubert, interprétée ici, merveilleusement interprétée, on devrait dire, par Alfred Brendel. Alors, vous parliez de milieu ouvert, milieu fermé, on a parlé un peu de la radicalisation, Michel de Lépine, mais il y a quand même, aujourd'hui, on a une difficulté avec la radicalisation. radicalisation, mais pas uniquement la radicalisation islamique. Les Black Blocs, les Ultras, qui sont des groupes très fermés, et des groupes à vouloir internationaliser de plus en plus. Donc il y a un problème de mobilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces groupes, vous qui avez suivi leur évolution depuis maintenant un grand nombre d'années?
Écoutez, Antoine Garapon, tout d'abord, je suis surprise qu'on soit encore surpris.
Ah oui.
Par l'existence de ces Black Blocs, qui sont suivis par les services de renseignement depuis bien des années. Hein. D'ailleurs, ces Black Blocs ont été présents lors de grands sommets internationaux, en Europe ou au Japon, par exemple. En fait, ces Black Blocs sont constitués de jeunes ou de moins jeunes, de jeunes d'une trentaine, 35 ans environ, qui sont des anarcho-autonomes et qui vivent très souvent dans des squats ou dans des communautés, qui revendiquent le chaos comme un but ultime d'idéologie, donc il faut bien mettre à bas les institutions démocratiques, et qui sont extrêmement mobiles, puisque nous avons retrouvé des réseaux qui communiquent entre eux, qui viennent de Belgique, d'Allemagne, d'Écosse, du Canada parfois, d'Italie. Donc il existe des réseaux très fort, en dehors d'une organisation tout à fait structurée, qui est contre leurs principes, hein, ce sont plutôt des réseaux interpersonnels qui se mettent en place à ces occasions. Et très vite, ces gens ont la possibilité de se contacter les uns les autres et d'organiser la participation à des événements d'ordre public qui ne sont pas dans leur pays. Donc très vite, ils peuvent se déplacer en voiture, dans le train, etc., etc.
C'est-à-dire qu'il y a une mondialisation, il y a une globalisation, y compris de la radicalité violente.
Absolument, tout à fait.
Et alors, comment on fait pour lutter contre cela? Parce que ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une coordination au niveau européen, voire au niveau avec les Canadiens ou avec les Japonais. C'est quand même compliqué, c'est une nouvelle manière de travailler, ça.
Michel, alors là, ce n'est pas franchement là du ressort du renseignement territorial, c'est du ressort de la DGSI. Eh bien, il y a des officiers de liaison. Qui correspondent, qui échangent des renseignements opérationnels. Et cette communication est d'autant plus forte que ces gens ignorent les frontières. On a pu retrouver ainsi des Français faire le coup de pouce, faire le coup de poing aux États-Unis, tel Écossais se déplacer en Allemagne, etc., etc. Donc, il y a une coopération très forte qui se fait entre les différents services de renseignement européens, voire internationaux.
Mais c'est intéressant parce qu'on voit à quel point la violence est désintermédiée. C'est-à-dire que entre le travail, j'imagine, un travail de renseignement classique où on essaie de savoir quelles sont les sensibilités qui évoluent dans un parti politique, dans un syndicat, dans une commune, et de suivre l'état de l'opinion. Mais l'état de l'opinion déjà institué, on pourrait dire, par la vie de la démocratie représentative. Là, on a affaire à des gens qui se vivent et qui se veulent, qui se revendiquent totalement extérieur, y compris à une organisation loi 901. Qu'est-ce qu'on a à dissoudre quand il n'y a pas d'association?
Alors là, je parle plus de l'ultra-gauche que de l'ultra-droite, parce que l'ultra-droite, on arrive à mettre en évidence plusieurs tendances au sein de l'ultra-droite, les identitaires, les néo-nazis, etc. C'est beaucoup plus structuré. Eh bien, là, on a affaire à un renseignement, je dirais, individualisé, en parlant de l'ultra-gauche, où il faut suivre des individus, leur réseau personnel. C'est un travail de fourmi et c'est un travail également de très longue haleine.
Oui, de très longue haleine et donc avec une certaine profondeur, avec une capacité d'interprétation. Mais ça veut dire que le renseignement n'est plus seulement territorial, il est individualisé. C'est un
Absolument.
Renseignement à l'individu.
Absolument, tout à fait. Mais ces individus sont repérés comment? En étant au plus près possible du territoire.
C'est ça. Oui, oui.
En fait, le renseignement territorial peut être comparé à un immense filet de pêche.
Oui.
qu'on lancerait derrière nous. Et puis, dans ce filet, eh bien, on va pouvoir observer des individus qui vont sortir du lot. Et on va commencer à s'intéresser à ces individus-là et à approfondir leur curriculumvité, leur lieu de domicile, leur réseau personnel, etc.
Mais il y a des villes, pourtant, j'ai cru entendre qu'il y avait des villes qui étaient plus radicales que d'autres, qu'il y a des traditions municipales, communales dans la radicalité.
C'est exact. Mais tout simplement parce que les réseaux personnels ont pris plus ancrage dans ces villes-là, tout simplement. Oui, oui.
Et comme c'est personnel, ça se démultiplie en fonction des personnes qui y
vivent. Absolument.
Mais est-ce que vous semblez regretter le temps des renseignements généraux traditionnels où il y avait une profondeur, où vous aviez le temps de faire des analyses où, et parce que ce que vous nous expliquez pour l'ultra-droite ou l'ultra-gauche ou les black blocs, c'est-à-dire que c'est un travail de fourmi, un travail de longue haleine, c'est un travail qui doit durer dans le temps, c'est un travail qui n'est pas visible et qui doit rester invisible. Mais ça paye plus aujourd'hui, un travail qui n'est pas visible.
C'est tout le problème. Oui. C'est tout le problème du rapport à une actualité qui est prégnante, une actualité, un fait en chassant un autre. C'est le problème aussi de la demande des politiques qui veulent des réponses.
Qui a beaucoup évolué, la demande des politiques.
Ils veulent des réponses immédiates. Et puis, il y a aussi un autre phénomène que je voudrais aborder avec vous, c'est que il y a un turnover beaucoup plus important maintenant de conseillers dans les cabinets ministériels, par exemple. Je vais vous parler du quinquennat. Oui. Le quinquennat, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, là n'est pas le sujet, vraiment pas le sujet, a abouti à une accélération des nominations. Et vous avez souvent des gens qui arrivent dans des sphères de décision sans connaître véritablement les dossiers en cours. Ça, c'est très important. Donc, il leur faut un certain temps avant d'appréhender certaines réalités. Je me souviendrai toujours, moi personnellement, lors des attentats du 11 septembre, il a fallu réexpliquer à nos dirigeants ce qu'étaient les réseaux islamistes, ce qu'était le salafisme. Pourquoi ? Parce qu'il y avait un nouveau personnel politique qui était venu aux commandes.
Oui,
simplement.
Et ce nouveau personnel politique, le quinquennat, ça comprime le temps. Absolument. Donc ça comprime le temps, c'est-à-dire qu'il faut mettre le temps d'initiation des cabinets ministériels à quand même la subtilité des formes de violence, des formes de radicalisation aujourd'hui. Et on se trouve face à des politiques qui ont des exigences de plus en plus immédiates.
Absolument. On a 5 ans pour marquer son temps, pour marquer sa période. Et puis, malheureusement, on n'a pas 5 ans pour se former. C'est au ça. Problème de fond qui menace les institutions. On n'a pas 5 ans pour se former.
Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, ça, c'est une question, vous n'êtes pas obligé de répondre, Madame le Commissaire, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi la question de la politisation des élites de la haute fonction publique, dans les cabinets ministériels, y compris au niveau de la police d'ailleurs, qui fait que, on hésite à être porteur de mauvaises nouvelles.
C'est vrai qu'il faut parfois être très solide dans ses convictions, plus exactement dans les preuves que l'on apporte, non pas dans ses convictions. Et puis, il faut parfois avoir la capacité personnelle de s'opposer aux pressions des hommes politiques.
Qui peuvent exister.
Ah, qui peuvent exister, absolument. Il faut espérer que certains responsables de nos services de renseignement aient l'envergure nécessaire pour dire non ou pour présenter tout simplement des écrits qui risquent de froisser le politique. Il faut avoir le courage de le faire. Et ça, c'est le rôle même d'un service de renseignement qui parfois doit jouer le rôle du fou du roi, il faut bien le dire.
Oui, c'est-à-dire que vous nous expliquiez tout à l'heure que le rôle du renseignement intérieur, c'est un rôle de rationalisation, notamment territoriale, d'essayer de comprendre, de mettre en forme les problèmes, les frustrations, les aspirations d'une population, et d'une population, ça, sur toute l'entièreté du territoire. Et ce que vous dites maintenant, c'est que c'est également une force d'objectivation. Et on a l'impression que dans la démocratie d'opinion, je parle sous votre contrôle, qui avait connu toute cette histoire du renseignement, il y a une émotionnalisation de la vie politique. De plus en plus, du fait de l'opinion, du fait des attentats qui sont des choses terribles et qui impactent beaucoup l'opinion, l'émotion prend plus de place au détriment de la profondeur d'analyse et au détriment de l'objectivation de ce que peut apporter l'enseignement.
Tout à fait. Alors, il faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Il existe toujours, bien évidemment, des analyses et des analyses de qualité, hein, notamment tous les hommes politiques actuellement saluent le travail du SDRT en matière de prévision de ce qui se passe tous les samedis actuellement à Paris. Il y a effectivement le sentiment pour les services de renseignement que le politique réagit comme l'opinion publique, c'est-à-dire dans l'émotionnel et dans le factuel. Et c'est un écueil, car le service de renseignement doit être capable de tirer des analyses qui soient valables à long terme et non pas seulement dans l'immédiat.
Mais on voit à quel point le renseignement est à la fois le reflet des difficultés, des évolutions et parfois des perversions de notre vie politique. Je parle d'un sens très large, c'est-à-dire le temps se comprime, l'espace se rétrécit, il faut prendre des décisions rapidement et sous la pression de plus en plus d'une violence qui s'est reconfigurée aussi. Michel de Lépine, une violence qui s'est reconfigurée.
Bien, au fur et à mesure que tout ce qui est institutionnel s'effondre, ce sont les individualités qui prennent le dessus, quand il n'y a plus de cadre d'évolution. Je parlais tout à l'heure de l'effondrement des syndicats, de la perte de confiance dans le politique, de la perte de l'importance du vote. Vous avez des gens aujourd'hui qui revendiquent ouvertement de ne plus aller voter. Bon, eh bien, quand tous ces garants de l'expression, mais de l'expression organisée, vers les pouvoirs publics disparaissent, on aboutit à une multiplicité de demandes individualisées, de frustrations individuelles et donc de violences.
Mais alors, il y a un bon exemple de ce que vous dites, Michel de Lépine, c'est les fichiers S. C'est les fichiers S, parce que vous étiez en charge de la question de la radicalisation dans la région parisienne, donc qui est particulièrement affectée par ce phénomène. Et à chaque fois, on voit bien la compréhension vis-à-vis des fichiers S. C'est-à-dire que le fichier S, c'est par définition une action qui est individualisée à un individu.
Absolument. Et alors là aussi, je voudrais quand même absoudre un petit peu les politiques.
Oui.
C'est qu'ils ont affaire à une opinion publique qui est très contradictoire dans ses
oui.
attentes.
Mmh.
À la fois, l'opinion publique crie au scandale lorsque l'on prend des lois qui, selon elle, est attentatoire aux libertés individuelles. C'est ce qui se passe actuellement, très honnêtement. Et en même temps, elle exige, lorsqu'elle se sent menacée, que des mesures répressives soient prises. Alors même qu'un individu n'a pas encore commis d'infraction, c'est le cas des fichiers S. La fiche S, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un GPS qu'on met sur une personne pour suivre ses réseaux, pour suivre ses déplacements. Mais bien en amont, théoriquement, d'une commission d'une infraction.
C'est un instrument de travail.
C'est un instrument de travail. Quant à savoir quand l'individu va passer à l'action, c'est impossible de le savoir quand il va le passer à l'action. Bien. Et l'opinion publique qui réclame vraiment des garanties de liberté individuelle, la liberté de manifester, etc., eh bien, exige, y compris les élus d'ailleurs, exige dans ce cas-là que l'on prive de liberté des individus qui n'ont pas encore commis d'infraction. Et ça, c'est totalement contraire à nos principes.
Oui.
Donc, si vous voulez, les hommes politiques, eux aussi, sont confrontés à la pression d'une opinion publique extrêmement contradictoire, si ce n'est versatile.
C'est ça. Mais alors, les fichiers S, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'il y a une fixation autour des fichiers
oui.
S. Vous avez, j'imagine, fiché un certain nombre d'individus comme fichiers S. Ça veut dire ce stade préliminaire, intermédiaire, suspect, donc à suivre, à surveiller. Mais après, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quel est le bon ratio entre les instruments dont le renseignement a besoin pour notre sécurité et le respect des libertés individuelles.
Alors là, c'est aux policiers, bien sûr, que vous posez la oui. question. Moi, je dirais que c'est un procédé qui me satisfait tout à fait.
Ah oui, est-ce que l'état actuel de la loi vous satisfait tout à fait ?
Absolument.
On
Absolument.
A tout ce qu'il faut.
Absolument. J'en suis persuadée. Pardonnez-moi si ma réponse ne vous convient
mais
pas.
Bien, pas du tout.
Mais
moi,
très honnêtement, les fiches S sont des instruments de travail extrêmement précieux qui garantissent également la sécurité des fonctionnaires de police, ne l'oublions pas, qui seraient susceptibles de contrôler des personnes qui se trouvent dans la nature et qui peuvent être dangereux. Donc c'est aussi une mesure de sécurité en faveur des
c'est
policiers.
Hein ? Bien sûr, c'est aussi une protection pour le policier.
Et
j'imagine, Michel de Lépine, que vous avez été surprise, parce que vous avez suivi un certain nombre de situations de manière très précise, c'était votre métier. Et en même temps, on a l'impression, là c'est un peu intuitif ce que je dis, c'est ma propre perception, c'est que ceux qui commettent les actes les plus graves sont jamais ceux qu'on attendait.
C'est pas tout à fait exact.
C'est pas tout à fait exact. Alors, c'est...
C'est même pas exact du tout.
Ah bon ? Ah ben voilà. Ben...
En fait, vous avez pu remarquer, et je pose mes mots, que très souvent, les personnes qui passent à l'acte sont des personnes qui faisaient l'objet d'une fiche S.
Mmh.
Hormis le délit d'association de malfaiteurs, qui permet de mettre en évidence des actes préparatoires à un passage à l'acte, comme par exemple l'achat de matériel explosif, l'achat d'une arme, etc. Hormis ces faits-là, comment pouvons-nous savoir qu'un individu va passer demain à l'acte?
On n'a aucun moyen.
On n'a aucun moyen de le savoir. Non seulement on n'a aucun moyen de le savoir, mais il ne faut pas non plus oublier que ces personnes utilisent également des méthodes extrêmement modernes. Utilisent nombre de téléphones portables, utilisent des réseaux cryptés. Donc c'est une chasse aux renseignements incessante. Et ces personnes s'adaptent très vite et peuvent très vite changer de stratégie. Donc, quand ces personnes sont-elles susceptibles de passer à l'acte? Il y a bien souvent qu'elles-mêmes qui le sachent. Quoi.
Mais hein? ça va être angoissant pour l'agent de renseignement.
Tout à fait. On ne sait jamais ce qui peut nous attendre.
Et donc, quand vous remplissez une telle fiche, j'imagine que c'est mûrement pesé, parce que c'est à la fois quelque chose pour lui, pour vous et pour la société. C'est une décision grave.
C'est une décision grave, mais il faut aussi ajouter ce qu'on n'a pas assez dit. C'est que cette fiche S peut également permettre de lever des soupçons qui pèsent sur une personne. C'est-à-dire que ça peut être également dans l'autre sens.
C'est-à-dire?
Par exemple... quelqu'un apparaît dans l'environnement immédiat d'un terroriste connu, on va demander une fiche S. Bien. Et puis après surveillance, on s'aperçoit que cette personne n'a rien à voir avec les activités terroristes ou subversives de cet individu, que c'est simplement une connaissance et que cette personne peut être lavée de tout soupçon, tout simplement.
Vous pouvez le blanchir.
On lève à ce moment-là la mesure de fiche S, tout simplement.
Michel Delépine, cette émission va bientôt se terminer. Vous avez connu toute une période, la transformation des renseignements généraux en renseignement territorial, cette réorganisation de la police qui manifestement n'est pas arrivée à maturité. Quelles seraient les mesures à prendre pour rendre nos services de renseignement territoriaux plus démocratiques, encore plus démocratiques?
Alors, je peux rassurer les auditeurs, ils sont démocratiques. Nous avons affaire à des fonctionnaires de police qui sont extrêmement vigilants sur la matière, sur la destination et la façon dont ils gèrent leur domaine d'activité. Cependant, il serait vraiment très profitable que, au sein de la Direction centrale de la sécurité publique, il y ait véritablement une recréation d'une culture de renseignement.
Et d'une tradition, d'une mémoire.
D'une mémoire. Parce que la mémoire a été perdue en 2008. De nombreux fichiers ont disparu, de nombreux documents ont disparu. Il faut retrouver cette mémoire. Il faut former les fonctionnaires par une formation spécifique. Et il faut fidéliser les fonctionnaires. On estime à 3 ans le temps nécessaire pour former un fonctionnaire de renseignement. Ce n'est pas en 6 mois qu'un fonctionnaire peut faire du renseignement. Donc il faut fidéliser les fonctionnaires et réinstaurer une véritable filière renseignement avec une culture renseignement.
Merci beaucoup Michel Delépine.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Michel Delépine, Joséphine Lampreya, Alain Joubert, Sandrine Chaperon, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et je vous donne rendez-vous demain soir pour terminer cette semaine avec Sébastien Laurent, qui est historien et politiste. Bonsoir.